Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui vous aide à devenir meilleur investisseur ou meilleure investisseuse. Nous sommes à la radio, nous sommes à la télé, nous sommes sur le web en direct entre 10h et midi tous les jours. Et puis vous le savez, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en podcast ou en replay. Nous sommes jeudi 28 mars, au programme de notre émission... Attention, attention à la fraude sur vos placements. C'est l'ORIAS, vous savez, le registre des intermédiaires en assurance vie, qui lance une grande campagne de sensibilisation au risque de fraude. Notre lanceur d'alerte, notre vigie, Stéphane Van Nuffel, avec nous pour en discuter. À 10h30, comme tous les jours, Nicolas Dose pour votre dose d'économie. Côté bourse, c'est Antoine qui est en train de se connecter depuis Euronext. Et puis, nos deux traders poursuivent la séance du jour dans le cadre du match des traders. On vous coach aujourd'hui sur comment gérer un budget de fin du monde. Oui, c'est un concept que vous connaissez peut-être sous le magnifique terme franglais de doom spending. Comment gérer et investir en période de fin du monde? C'est un vrai sujet dont nous allons discuter avec Morgane Dion du Média Plan Cash. En portefeuille, une sélection de valeurs peut-être italienne avec Louis De Fels de l'équipe de Gay-Lussac Gestion. Et puis, question-réponse du jour, dans quelle société du CAC 40 investir pour soutenir notre pays, pour soutenir l'activité économique française? On en parlera avec Xavier Leroy d'Eti Finance et ancien patron d'Euronext. Et puis, pour finir notre émission, nous parlons investissement thématique, nous parlons investissement dans le vin, vous allez me dire encore. Oui, mais nous allons parler investissement dans le vin via la blockchain. La tech peut-elle réenchanter le monde du vin? C'est un vigneron qui va nous raconter comment et pourquoi il a passé toute sa production de vin en NFT, en créant un club d'allocataires. Vous verrez, chaque membre achète des bouteilles et ne reçoit que son jumeau numérique. Voilà, on en parle en fin de tranche. D'ici là, il est à vous, chers auditeurs, auditrices. Vous nous écrivez direct à bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn en message personnel. Je vous lis, vous m'écrivez Lorraine Goumeau. Pour l'heure, c'est le moment de partir rejoindre Antoine à Euronext.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Cher Antoine, alors ça y est, le CAC 40 est remis en ordre de marche avec des nouveaux records. Et bien en série, hein, depuis qu'on s'est parlé hier.
Oui, absolument. Le dernier, il date d'il y a une grosse vingtaine de minutes. Il est à 8243 points. On est juste en dessous, 8238. Donc une hausse de 0,41%. Alors, cette réaction de marché, elle est principalement due à la clôture de Wall Street, hein, avec vraiment une très belle hausse. Hein. Du côté du Dow Jones, qui a d'ailleurs gagné 1,2%, qui a surperformé les autres indices américains. On sentait que le marché américain avait de toute manière besoin de rebondir après trois séances de baisse consécutives. Et ce sont les valeurs cycliques qui sont sorties du chapeau, et ça explique les très belles performances aujourd'hui. Tiens, ben de Leconte par exemple, qui gagne 1,8%, leader du CAC 40 depuis le début de la séance. On est à 98,26€, soutenu par une recommandation positive de Morgan Stanley d'ailleurs, qui entre Legrand et Schneider Electric, ben, préfère Legrand. L'intermédiaire trouve qu'il y a vraiment plus de potentiel. Les banques, tiens, ben justement, elles signent de belles hausses aujourd'hui. Plus 1,75 pour la Société Générale à 24,67. BNP Paribas plus 1,44 à 65,60€. A signalé Trigano, hein, qui gagne 5,2% à 155,90€. On a Vusion Group qui s'envole carrément de 11,5% à 143,20€. C'est la plus forte hausse du SBF 120. On a la Score aussi qui est soutenue par une recommandation favorable, qui gagne 4,2% à 31,90€. Puis alors, bilan hebdomadaire sans doute faramineux pour Ruby, qui gagne encore 3% à 33,16€. Les marchés achètent, mais vraiment à fond, la montée au capital de Bolloré, hein, sur le groupe d'ingénierie. Parmi les autres titres à signaler, bah, des baisses, on a Carrefour, moins 0,7% à 15,98€, Vinci, moins 0,5% à 119,42€. Le secteur techno qui va pas super bien, déjà parce que le Nasdaq était un peu en retrait hier, mais on a Dassault Systèmes qui perd 0,4% à 41,04€, on a ST Micro, moins 0,42% à 40,28€, mais tout ça dans le siège de Soitec, hein, qui signe la plus forte baisse du SBF 120, baisse impressionnante, moins 10,5%, on est à 107,65€, le CAC plus 0,45, 8241 points. et l'euro 1,0786. Lorraine.
Merci Antoine. On se retrouvera dans une heure pour parler bagnole. On parlera de Tesla. Le plus déglingué, je vous cite, le plus déglingué de cette magnifique Tesla, avec des analystes très très divisés sur les perspectives de ce constructeur automobile. À tout à l'heure Antoine, dans une heure pour l'histoire financière. Pour l'heure, écoutez, c'est le moment de vous donner votre dose d'actualité patrimoniale. Notre rédacteur en chef ce matin, c'est Stéphane Van Uffel de Net Investissement.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Il est partout, il est tout le temps sur notre antenne, il était avec les experts de Dose et je l'ai capté, il est resté avec nous, c'est Stéphane Van Uffel. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine.
J'espère que vous allez être encore plus brillant que dans les experts avec Nicolas Dose. Dans notre émission Tout pour investir, vous êtes le cofondateur de Net Investissement. Ce matin, la revue de presse est à vous et on démarre sur une alerte. Attention à la fraude.
C'est un sujet qui est très important parce que vous le savez, Net Investissement fait du digital. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, y compris les réseaux sociaux, ceux qu'on attend le moins, comme TikTok ou Instagram. On est très présent sur YouTube. On fait beaucoup de vidéos qui ressemblent à de l'influence. Et donc, je voulais utiliser, dès qu'il y a une actu là-dessus, ça m'intéresse de rappeler à nos auditeurs investisseurs qu'il existe en France des organisations de tutelle qui surveillent finalement ce que l'on fait quand on fait de la banque, ce que l'on fait quand on fait de la bourse, AMF, ACPR. Et l'ORIAS, c'est le registre unique des intermédiaires en assurance, donc en assurance vie également, qui est un énorme pourvoyeur de placements. Et donc l'ORIAS, là, a lancé une grande campagne directement auprès des particuliers, mes clients, pour les alerter face au risque de fraude. On a tous entendu dernièrement fraude au téléphone, fraude au SMS, fraude à la carte bleue, etc. Il y a énormément de choses dont il faut se méfier quand on est un épargnant. Donc je le rappelle, Net Investissement, c'est un site qui a déjà été plusieurs fois copié, évidemment par des gens qui sont à Malte, à Chypre, etc. Je voulais juste appeler les Français investisseurs à être très prudents et à se rendre sur les organismes comme l'AMF, l'ACPR ou l'ORIAS lorsque vous rencontrez un professionnel, parce qu'il est forcément à un moment donné soit dans une liste noire, soit sur l'ORIAS inscrit comme étant un professionnel à jour de ses aptitudes professionnelles à vous accompagner. Faites cet effort-là pour éviter, évidemment, que ce soit une catastrophe. Parce que là, on en a vu quelques-unes dernièrement magnifiques, en particulier où les gens vraiment perdent beaucoup d'argent en se faisant pomper leur compte bancaire.
Vous parlez de quelle arnaque particulièrement ?
Le truc classique, c'est votre banquier qui vous appelle. En fait, on ne se rend pas compte que le numéro de téléphone peut être dupliqué. Et en fait, à partir de là, on vous explique qu'il y a des règles de procédure de protection parce que quelqu'un est en train d'attaquer votre compte et on vous demande justement de soit donner votre numéro de compte, soit de valider avec votre espace bancaire des transactions vers un compte d'attente, ce que ne fera jamais une banque, etc., etc. Donc ça, c'est des choses très classiques. On vous appelle comme ça, vous raccrochez, vous rappelez votre banquier, il va vous dire que c'était pas lui qui vous a appelé. Mais ça peut aller beaucoup plus loin sur Internet avec des sites qui ressemblent à des sites de votre banque et qui là en revanche vous font faire des virements 10, 15, 20, 100 000 euros, et ça vous les récupérez absolument jamais. Et allez évidemment sur l'ORIAS pour vérifier si le professionnel existe bien et s'il est bien à jour de ses aptitudes à faire son métier.
La copie du site web peut être parfaite, sachez-le. Un mot sur d'immobilier avec les taux qui passent en mars sous 4%, qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'était la bonne nouvelle du jour, c'est pas foufou, mais là aujourd'hui je me suis inspiré de plusieurs courtiers. Mais alors, à part pour vraiment malheureusement encore les tout petits profils, c'est-à-dire des gens qui gagnent moins de 40 000 euros pour un couple, donc c'est forcément pas le profil qui peut le plus négocier, et là encore on reste un peu au-dessus de 4% sur 25 ans, mais sinon tous les autres profils et toutes les autres durées sont passées sous 4%. Et 4%, c'est important parce que je pense que c'est un seuil psychologique qui, dans cet affaissement potentiel de la courbe des taux, je vais le dire comme ça, on ne sait plus comment le dire, jusqu'à ce que Mme Lagarde annonce des choses au mois de juin.
C'est une annonce
d'une bonne nouvelle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se traduit concrètement pour nous sur le terrain par des gens qui psychologiquement recommencent, et je le dis depuis quelques semaines, au moins à s'intéresser à un projet immobilier. Ils retournent sur les sites spécialisés, ils refont travailler les agents immobiliers, et je pense que n'importe quel agent immobilier vous le dira, il y a une inflexion. on est quand même sur quasiment du 3,10, 3,15 sur 15 ans. Donc on devrait normalement, s'il y a les annonces de baisse, passer l'été et peut-être toucher la barre des 3 sur les durées les plus courtes. Et là, on reviendrait à un système très normal du début des années 2000. Et l'immobilier, normalement, devrait stopper sa chute vertigineuse.
Voilà la boule de cristal de Stéphane Van Nuffel. Un dernier mot très rapide sur la tendance des ETF actifs. ETF actifs dont on a déjà un petit peu parlé sur cette antenne. Votre regard sur cette nouvelle mode?
Alors c'est une nouvelle mode d'abord qui n'est pas hyper franco-française. Hein. C'est très très à la mode aux États-Unis, plutôt à la mode dans certains pays d'Europe. Moi j'ai eu du mal quand j'ai commencé à m'y intéresser, à comprendre. Parce que pour moi, vous aviez un ETF, par principe, il réplique un indice, une courbe d'action, de panier d'action. Donc en fait, c'est vraiment au mouvement près. C'est vraiment un document qui traque finalement soit les performances, soit les sous-performances d'un sous-jacent. Et il ne bouge pas. Donc un ETF actif, tel qu'on me l'a expliqué, il y a quand même un gérant qui a la possibilité, dans ce tracking d'un indice ou d'un sous-jacent, d'aller privilégier quand même quelques petites choses de plus que d'autres en pondérant de façon différente, alors que normalement, l'ETF pondère 100% l'indice qu'il suit. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens qui s'y intéresseraient? Soyez très prudents quand même, parce que ça redevient vraiment de la gestion active. Donc, pourquoi à un moment donné choisir cet ETF actif avec quelques frais en moins, évidemment, peut-être un peu plus de liquidité puisqu'il est coté en continu par rapport à des fonds classiques gérés par des gérants. Voilà, ne vous faites pas piéger par le mot ETF, parce que là, en ce moment, comme il y a les ETF spot sur Bitcoin, maintenant il y a les ETF actifs, on mélange avec les ETF passifs qui sont un produit très 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 différent, donc il faut s'y intéresser. Mais ne le faites pas tout seul, vraiment pas tout seul. Autant des ETF passifs, franchement, vous pouvez boursicoter dessus sans trop de difficultés. Ouais. Autant l'actif, c'est bien d'avoir un tierce, là je vais défendre un peu ma paroisse, pour quand même contrôler cette liberté qu'a le gérant sur cet ETF, parce que c'est un être humain et donc il peut reprendre les mêmes biais, dans le bon sens comme dans le mauvais, que s'il faisait de la gestion active sur OPCVM.
Voilà, la rencontre entre la gestion passive et la gestion active, les ETF actifs. Merci Stéphane. Vous restez avec nous, Charlotte Tamer, votre consoeur, va nous rejoindre. On va parler finances perso et conseils en finances personnelles. Mais d'abord, on passe une tête chez notre trader.
Tout pour investir, le match des traders.
Et notre duo ce matin, c'est Mathieu Cerrone, trader pour compte propre, et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank. Bonjour à tous les deux, messieurs.
Bonjour à tous.
Bon, demain.
Bonjour.
Demain, c'est le week-end prolongé pour vous. Donc, donnez-nous des bons conseils et une bonne vision de la journée d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Où on voit que le CAC s'est remis en marche avant. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Peut-être Andrea pour démarrer.
C'est vrai qu'on a des marchés qui repartent légèrement. On a un nouveau point record sur le CAC. Alors on l'avait déjà fait sur le futur en début de séance, donc avant l'ouverture à 9h, on avait déjà fait un niveau autour des 8245. Donc c'est un niveau qu'on avait déjà un petit peu testé techniquement sur le marché. Donc ça devient aujourd'hui un niveau de résistance, un niveau qu'il faut franchir. C'est les marchés américains qui ont donné hier le carburant pour justifier aujourd'hui cette hausse dans les premiers échanges sur le CAC. Mais il faut quand même se méfier parce que c'est une séance du coup fin de mois, fin de trimestre. Les marchés seront fermés demain et lundi, donc du coup, c'est une séance qui va être un petit peu particulière potentiellement, avec peut-être des arbitrages qui vont être faits pour justement maquiller un petit peu ces fins de mois, ces fins de trimestre. Donc il faudra un petit peu surveiller la dynamique des marchés aujourd'hui, qui peut être un petit peu variable. Mais c'est vrai que globalement, on continue de garder un biais évidemment positif sur le marché. Attention toutefois, bon, on aura quelques indicateurs aujourd'hui, PMI de Chicago, l'indice de confiance de l'Université du Michigan, et on aura surtout le PCE demain dans un marché fermé. Donc du coup, c'est un indicateur qui va composer un risque. Donc attention quand même à pas porter un risque trop fort pendant du coup un week-end prolongé. Donc ça peut être aussi une indication sur peut-être des mouvements de protection en fin de journée pour éviter justement de porter un risque trop important sur le marché. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce sentiment que les investisseurs restent extrêmement positifs sur le marché. Donc on a 8245 qui aujourd'hui apparaît comme la résistance principale. Au-delà, ça peut être en projection, si on se projette, 8275 et 8300 en niveau psychologique. Mais les niveaux d'alerte, ils sont extrêmement éloignés, parce que si on le relève légèrement, ça peut être un niveau comme 7975, le premier niveau d'alerte. Mais la vraie zone d'alerte, elle est même légèrement en dessous, autour des 7850 sur le CAC. Donc on est très éloigné de ces niveaux-là. Tant qu'on reste au-dessus, on a un potentiel de hausse qui reste intact. Donc pour le moment, le biais, il reste encore une fois extrêmement positif sur le marché.
Bon, demain, vous l'avez rappelé, publication de l'inflation PCE et puis un discours du patron de la Fed, Jérôme Powell. Tout ça pendant que Wall Street est fermé et que vous aussi, vous serez au repos, Mathieu Cerron. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous surveillez les mêmes niveaux techniques qu'Andrea?
Oui, tout à fait, avec des marchés, comme Andrea le disait, qui restent sur une dynamique très haussière. On se demande bien ce qui viendra enrayer cette dynamique-là. En effet, c'est l'occasion aujourd'hui, je pense, d'accrocher de nouveaux records. L'occasion est idéale, comme le disait Andrea, fin de mois, fin de trimestre même. Et c'est l'heure des petits bilans. Et quand on regarde la performance du CAC sur le premier trimestre, on est sur une hausse de 9%. Mmh. C'est le même ordre de grandeur aux États-Unis, puisque le SP500, à l'heure où on se parle, est en hausse de 10% depuis le début de l'année. Donc les US, quant à eux, seront ouverts lundi, donc fermés demain comme nous, mais ouverts lundi. Donc comment aborder cette phase-là? Eh bien moi, j'ai pas du tout changé de stratégie. Hein. Je cherche toujours à acheter sur des replis. Ce qui est frustrant dans cette phase-là, c'est que justement, des replis, eh bien à court terme, il y en a peu. Des replis exploitables à court terme, il y en a peu. Et dans une optique moyen terme, il y en a pas du tout. Donc, pour aujourd'hui, bah, les niveaux que je vais surveiller, c'est 8215 pour tenter un premier achat, on va dire, un petit peu agressif. En dessous, il y a un support à 8185,90. Vous voyez, c'est des niveaux quand même relativement proches. Mais en même temps, on a une volatilité intraday qui n'est pas très élevée depuis quelques temps. Et donc, si j'arrive à acheter sur ces niveaux-là, bah, ça sera pour viser les niveaux de prix actuels autour des 8250. Et ce qu'il faut avoir en tête dans ce genre de situation-là, c'est toujours pareil. C'est moi, comme je vous dis depuis quelques temps, je ne me fixe pas d'objectif. En revanche, je remonte progressivement mes niveaux, on va dire, d'alerte. À très court terme, on pourrait éventuellement prendre le niveau des 8100 pour faire une articulation très rapide, mais en ayant conscience que c'est très agressif. Et dans une optique un petit peu plus longue, je rejoins parfaitement Andrea, la zone support qui va être intéressante se situe autour des 7850. 7850, 7900 points va constituer, je pense, un niveau d'entrée à moyen terme si jamais on a un retracement. Vous voyez, si on atteignait ce niveau-là, ça correspondrait à un repli d'environ 5%. Mmh. Et moi, j'accorde une grande importance à des mouvements de cette amplitude-là, puisque jusqu'à 5%, la tendance de fond n'est généralement pas du tout remise en question, mais en dessous, eh bien, on commencerait peut-être à se fragiliser, on rentrerait dans une zone de neutralité. Vous voyez, je vais pas non plus parler de retournement de tendance, faut pas exagérer après le mouvement de hausse que nous connaissons, mais sous 7800-850, nous rentrerions dans une zone de neutralisation. Et je terminerai mon commentaire par la volatilité implicite. On en parle régulièrement le jeudi à cette heure-ci. La volatilité implicite continue de baisser, donc avec la hausse, elle continue de baisser. Sur le CAC, à un mois, on est à environ 10 de volatilité, donc c'est vraiment très faible. On va arriver là aussi sur des records, mais des niveaux historiquement bas. Quant au VIX sur le SP500, la volatilité donc se situe autour des 13. Donc toujours pareil, vous voyez, pour ceux qui en ressentent le besoin, il est possible de se couvrir pour pas très cher dans la phase actuelle.
Bon, voilà, on pourrait parler de l'absence totale de volatilité et de l'utilité d'ailleurs de l'indicateur VIX, mais je voudrais vous poser une rapide question pour conclure, messieurs. On s'apprête à avoir un gros week-end de 4 jours avec les marchés fermés. Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne sont pas des professionnels comme vous, est-ce que c'est le moment de boursicoter, Andrea?
Ah, c'est pas le moment où il risque d'y avoir le plus de mouvement, le plus de volatilité. C'est vrai qu'on devrait avoir une tendance globalement calme aujourd'hui. Il peut y avoir encore une fois un petit peu de volatilité sur ce que je disais tout à l'heure, des maquillages de fin de mois, de fin de trimestre. Il y a quelques indicateurs macroéconomiques cet après-midi. On peut avoir aussi quelques investisseurs qui prennent le choix de s'alléger justement avant un week-end et des indicateurs qui vont être importants. Vous l'avez rappelé, l'inflation PCE et aussi le discours de Jérôme Powell. Donc c'est peut-être plus le moment de se protéger, voire d'alléger légèrement ses positions avant le week-end pour éviter de porter un risque trop important, sachant encore une fois que des indicateurs majeurs seront publiés demain.
Mathieu, le mot de la fin ?
Bah, tout dépend dans quelle optique on se positionne. Alors c'est vrai que le fait que les marchés soient fermés 4 jours n'incite pas non plus à prendre des initiatives très fortes. Alors je vous parlais justement des options. Bah, il faut savoir que les options se déprécient, c'est en nombre de jours calendaires, donc elles vont se déprécier. Si c'est pour du très court terme, bah, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des opportunités. Alors dans la phase actuelle, comme je disais tout à l'heure, c'est pas non plus, il n'y en a pas non plus énormément. En revanche, bah, dans une optique à moyen terme, Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a rien à faire du tout. Pour ceux qui ne sont pas tellement en position, ils ne vont pas prendre de décision maintenant sur ces niveaux de prêt actuels. Éventuellement, là, je rejoindrai, on peut très bien alléger un petit peu, mais moi, plutôt qu'alléger, parce que à force d'alléger, alléger, à un moment donné, on n'a plus rien du tout, ben, je préfère rester en position, me couvrir avec les options, laisser filer, et puis advienne que pourra.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mathieu Céron et merci Andrea Tueni. Eh bien, bon repos mérité pendant ces 4 jours. On vous retrouve la semaine prochaine, j'espère. On continue à s'intéresser à vos finances personnelles. Nos deux experts en plateau pour discuter l'actualité patrimoniale.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
Discuter ou disputer l'actualité patrimoniale. Rebonjour Stéphane Bornifel.
Rebonjour.
De Net Investissement et bonjour Charlotte Tamer.
Bonjour.
Notre experte finance perso et puis habituée du plateau. On va réfléchir, puisque vous le savez, c'est la semaine intergalactique de l'épargne salariale, à l'importance qu'il y a d'épargner sa prime ou ses primes dans cette logique d'épargne salariale. Charlotte, racontez-nous ce que vous voulez nous dire en cette semaine importante pour nos finances personnelles.
Et oui, c'est la semaine de l'épargne salariale. On en parle assez peu. Pourtant, l'épargne salariale, c'est un outil assez magnifique d'un point de vue social, fiscal, pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié. Si vous avez la chance d'avoir un accord d'intéressement, de participation au sein de votre entreprise, ça va bientôt être la période de distribution, en fait, de ces primes d'intéressement et de participation. Et vous allez recevoir, à titre en tant que salarié, des campagnes pour savoir si vous voulez investir cette prime dans votre plan d'épargne entreprise ou votre plan d'épargne de retraite entreprise, ou si vous voulez la toucher en cash. Donc, si vous pouvez vous le permettre, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, si ça ne porte pas défaut à vos finances, à votre train de vie au quotidien, et que vous pouvez épargner cette somme d'argent, faites-le pour 3 raisons principales. La première, c'est quand on investit sa prime d'épargne salariale dans le dispositif plan d'épargne entreprise et autres, eh bien en fait, cette prime n'est pas fiscalisée. Mmh. Elle n'est pas imposée à l'impôt sur le revenu. Donc, il y a quand même les prélèvements sociaux, CSG, CRDS à hauteur de 9,7%, mais exit la tranche marginale d'imposition, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si votre entreprise est plutôt généreuse, il est probable qu'elle abonde cette prime d'intéressement ou de participation. Et cet abondement, il peut aller jusqu'à 300% de la somme versée et jusqu'à un peu plus de 3 000 euros sur le plan d'épargne entreprise, un peu plus de 6 000 euros sur le plan d'épargne retraite collective. Mmh, mmh. Donc en fait, d'une pierre deux coups, votre prime d'intéressement ou de participation peut vraiment se retrouver amplifiée par cette prime d'abondement. Et le troisième point, c'est qu'au final, ces épargnes, enfin ces enveloppes, ne sont pas si bloquées que ça. Sur le plan d'épargne entreprise, il y a 9 cas de déblocage anticipé et bonne nouvelle, à partir du printemps, on va avoir 3 causes de déblocage anticipées supplémentaires, à savoir la rénovation énergétique de la résidence principale, ah, également les dépenses engagées en tant que proche aidant pour quelqu'un de votre famille, mais également l'acquisition d'un véhicule propre, neuf ou d'occasion. Donc autant d'opportunités de pouvoir verser dans le plan d'épargne entreprise et à savoir le plan d'épargne entreprise, vous investissez, vos fonds sont investis sur les marchés financiers et l'exit de ces dispositifs-là sont aussi attractifs parce que sur le plan d'épargne entreprise, la plus-value n'est pas fiscalisée, il y a seulement les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc là, je viens de vous citer 4-5 avantages dont au moins 2 qui sont fiscaux qui sont assez attractifs.
Intéressant, ces nouveaux cas de déblocage qui sont au diapason de la société.
Tout à fait, je rajouterais juste 2 choses parce que pour compléter tout à fait. Dans les avantages surtout, c'est que maintenant, le plan d'épargne entreprise ou même le plan d'épargne retraite collectif, ça a beaucoup évolué sur les 20 dernières années. Il y a des grands opérateurs en France qui ont fait beaucoup de choses pour le partage du profit, ils se reconnaîtront. C'est un principe où vous avez aujourd'hui des profils de gestion pilotée, voire même, vous pouvez gérer vous-même un peu ce que vous faites de votre argent. Donc, au-delà de simplement ces avantages que rappelait Charlotte, il y a une vraie gestion à avoir sur son PE. Donc,
financière.
Ouais, hein. Je ne sais pas s'il faut attirer l'attention des salariés. Il ne faut pas non plus ne plus s'en occuper parce qu'on sait que tant qu'on n'a pas un moment de déblocage, on ne va pas le débloquer. Mais il y a des choses très intéressantes à faire avec un panel de possibilités de solutions financières très large sur tous les secteurs, toutes les thématiques, etc. Un peu, de près ou de loin, comme les autres contrats, j'ai envie de dire patrimoniaux qu'on peut rencontrer, certes beaucoup moins ouverts qu'un PEA ou une assurance vie, mais je pense que ça peut avoir une importance. Et la deuxième chose, c'est que l'épargne salariale, avec l'aide de l'abondement justement, qui donc protège finalement une potentielle perte sur ce que vous avez mis, puisque l'entreprise l'a multiplié par 2 ou par 3, c'est, j'ai envie de dire, la première marche vers l'épargne salariale, de l'actionnariat salarial directement dans son entreprise, ce qui peut être une possibilité, et ce que j'appelle moi forcément de mes voeux pour que les Français deviennent finalement les actionnaires soit de leur entreprise, soit d'autres. Mais par l'épargne salariale, c'est une première façon de comprendre les mécanismes qui peuvent vous intégrer finalement dans un système beaucoup plus large pour vos vieux jours, pour vous protéger, etc. etc.
Un mot, ne serait-ce que pour... Moi, si je retiens quelque chose, parce que nous sommes jeudi, donc nous, ça fait 4 jours qu'on fête la semaine de l'épargne salariale sur BFM
Quelle
Business.
Chance.
Et donc, on est très au courant de l'épargne salariale. Et je dirais que je retiendrai une chose, c'est le fait qu'on est très peu fiscalisé et que finalement, on ne paye pas d'impôts sur ces sommes. Et rien que ça, ça doit être une motivation pour les laisser sur les plans proposés par
et sur
entreprise.
Ce que vous gagnez dessus.
C'est important.
Alors, la fiscalité, encore une fois, hein, c'est la cerise sur le gâteau, ça ne doit pas être la... Enfin, ça ne doit pas être le moteur de votre décision, mais ce que disait Stéphane juste avant, on le met assez peu en valeur. L'épargne salariale commence à être un peu dépoussiérisée, c'est encore un peu long, hein. C'est les dernières enveloppes qui tendent à être dépoussiérisées, et on trouve que ces enveloppes d'épargne salariale sont des enveloppes d'investissement financier et sont, pour certains salariés, les premières exécutions sur les marchés financiers. Et on trouve des offres de plus en plus financières, on va trouver de plus en plus de fonds indiciels, des fonds en ETF, et on va trouver des choses en clean share, c'est-à-dire où il n'y a pas de rétrocession en termes de frais de gestion, et donc il y a des choses assez belles qui sont en train de se développer et de se faire sur le marché.
Voilà, dépoussiérer cette épargne finalement, épargne comme une autre. Un tout petit mot, si vous voulez bien, de retraite. Vous êtes venu avec deux chiffres, Charlotte. La pension moyenne de retraite versée par la CNAV, alors vous nous rappelez ce que c'est que la CNAV, on parle de 814 euros ou de 1215 euros. Qu'est-ce que c'est que ces deux chiffres ?
Alors moi, c'est des chiffres que j'ai trouvés hier en préparant l'émission et qui m'ont un peu alertée, où en fait, on est tombé sur la moyenne des pensions de retraite touchées par les retraités en France aujourd'hui. Donc il faut savoir, en France aujourd'hui, il y a 15 millions de retraités, soit 5 millions de plus qu'il y a 20 ans. Donc première information donnée par ces chiffres, c'est que la France vieillit. Bon, c'est pas... je vous annonce rien. Mais là, on donne la retraite moyenne, en fait, qui est perçue par les hommes, par les femmes. Donc la retraite moyenne à taux plein, ça veut dire quelqu'un qui a tous ses trimestres, hein, et qui a travaillé toute sa vie à temps plein, elle est de 1215 euros. Mais il faut savoir que les retraites à taux plein aujourd'hui, sur l'ensemble des retraités, c'est seulement 42% des pensions de retraite perçues. Donc c'est assez faible, hein, au final, sachant que nous, nos modes d'activité, des générations qui sont actifs aujourd'hui, sont encore plus disparates que c'était le cas auparavant. Donc on risque de plus en plus d'avoir ce taux de retraite à taux plein, risque de chuter encore plus. Et ensuite, on se rend compte que pour les hommes, donc sur la moyenne totale de ceux qui sont à taux plein, de ceux qui sont à taux pas plein, on est à 922 euros par mois pour un homme et on est à 729 euros pour une femme. Alors, je sais pas, je vois vos têtes là, un peu effarées. Moi, ça m'a donné envie d'ouvrir un deuxième PER. En fait. Oui. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est retraité, même si son logement est payé, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec 730 euros ? Moi, je suis une femme, donc en plus, on est dans les stéréotypes types, hein. C'est-à-dire que la retraite est basse, les femmes touchent moins que les hommes. Qu'est-ce qu'on fait avec 730 euros par mois aujourd'hui ? Voilà, on perd Stéphane. Mais non, mais vraiment, le chiffre est alarmant et je pense que ça doit alerter les gens qui nous regardent aujourd'hui. On ne fait rien. Et dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je pense qu'on fera encore moins de choses que ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Ces chiffres, Charlotte, ils viennent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Hein. Ce sont des chiffres publics.
Officiels.
Officiels.
Qui ont été publiés cette semaine.
Voilà, en gros, on est en dessous de 900 euros par mois pour, vous avez dit,
pour les hommes, pour la retraite hommes, moyenne des hommes.
Pour plus de la moitié des Français. Le mot de la fin, Stéphane, sur ce chiffre. Et qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'éducation financière de ce que nous devons
voilà,
faire ?
Charlotte l'a dit, moi je suis en plein dedans. C'est notre sujet 2024 chez Net Investissement, hein, pour ne pas enfoncer une porte ouverte. C'est le PER des jeunes. En fait, c'est d'arriver à trouver un moyen de donner envie aux vingtenaires et aux jeunes trentenaires de faire du PER, qui n'est pas le truc le plus sexy. Sauf que dans un PER, maintenant, on peut mettre plein de choses. Les Magnificent Seven, on peut mettre des cryptos un petit peu. Donc, c'est leur donner envie de commencer avec peu, mais pendant très, 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 très longtemps. Et puis, je rebondis sur le sujet de l'épargne salariale. Forcément, l'épargne salariale, c'est un sujet fondamentalement auquel on doit se pencher, parce que l'effet de levier entre l'économie d'impôt et l'abondement potentiel de votre entreprise, qui peut aller jusqu'à 3 fois la somme que vous mettez, c'est énorme, hein, en termes de gains. Oui. Ça dépasse n'importe quel placement. Forcément, ça, si vous restez 20 ans dans une entreprise, c'est tout bénef pour votre retraite.
Et même si vous changez d'entreprise, en fait, oui, dans le dispositif d'épargne salariale, on a aussi un volet père, mais qui est collectif et qui va offrir le même aspect de défiscalisation qu'un PER individuel. Et en plus, ce PER, quand vous quittez votre société, ben, vous pouvez le transférer d'une société à une autre, d'un établissement bancaire à un autre. Donc, ce n'est pas un problème. Mais clairement, pour les générations, il n'est jamais trop tard déjà pour épargner pour la retraite. Et pour les nouvelles générations, il faut une hygiène financière, une hygiène d'investissement, d'épargner régulièrement par petites sommes, avec le dollar cost averaging, par exemple, qui peut se révéler très utile, et de profiter des avantages fiscaux qui vont avec.
L'hygiène financière. Et vous continuez à écouter Tout pour investir pour être plus hygiénique. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
Charlotte Tamer, merci Stéphane Van Nuffel.
Merci,
voilà pourquoi épargner sa prime d'épargne salariale et puis surtout préparer votre retraite parce que le système ne s'en occupera pas. Vous restez avec nous juste après la pub, Nicolas Dose pour sa petite dose d'économie et puis ensuite Louis De Fels de Gay-Lussac et Gestion nous emmène en Italie pour nous faire un petit peu voyager et surtout parler entreprise du territoire. À tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Votre dose quotidienne d'économie avec Nicolas Dauge. Bonjour, cher Nicolas.
Bonjour.
Nous allons parler de Gabriel Attal, de surtout de ce qu'il a dit, puisqu'il prenait la parole hier soir. Qu'avez-vous retenu, cher Nicolas ?
Principalement, c'est bien sûr la réforme de l'assurance chômage. On en a pas mal parlé hier, je vais aller droit au but. J'ai l'impression qu'on est en train de faire les lois Hartz de 2004. En 2024 en France.
Les lois Hartz.
C'était la série des quatre grandes lois menées par l'ancien DRH de Volkswagen, Peter Hartz, au moment de Gerhard Schröder, qui ont totalement transformé l'économie allemande après la réunification et qui ont mis l'économie allemande sur les rails d'une politique de l'offre pro-business avec ce modèle ultra-mercantile reposant sur les exportations. Pourquoi je dis qu'on fait nos lois Hartz en 2024 ? Parce que ce qui se dessine, c'est que la durée d'indemnisation, ça va être 12 mois. Comme en Allemagne. Ce qui se dessine, c'est que pour avoir accès à l'assurance chômage, il faudra pas avoir travaillé 6 mois, mais sans doute 12 mois.
Oui.
Ça n'a pas été dit, mais j'en suis convaincu, comme en Allemagne. Ça veut dire qu'on va avoir un système d'assurance chômage copié-collé du système allemand. Alors la question des seniors n'est pas tranchée, parce qu'elle est actuellement dans les mains des partenaires sociaux qui négocient jusqu'au 8 avril pour savoir à quel âge commencent les droits préférentiels. Il est probable que pour coller à la réforme des retraites, qui a allongé 2 ans la période d'activité, toutes les bornes d'âge qui donnent droit à des droits supplémentaires soient également rehaussées de 2 ans, c'est-à-dire que celui qui avait des droits à 55 ans, il les aura probablement à 57 ans demain. Et là, on verra. Parce que vous prenez l'exemple allemand, au-delà de 55 ans, c'est plus 12 mois d'indemnité, mais entre 18 et 24 mois d'indemnité. Je suis sûr qu'en fait, on va faire un copier-coller du modèle allemand.
Très bien. Alors, vous savez sans doute comment on dit desmicardiser en allemand, du coup ?
Non, c'est un point qu'il a évoqué, Gabriel Attal. Le problème, c'est qu'il ne donne aucune solution. C'est bien, si vous voulez, de dire, il faut que les gens sortent de cette trappe à bas salaire où il y a plein de gens rattrapés par le SMIC, qui est le seul salaire indexé sur l'inflation, et en plus des gens qui sont coincés entre le 1 SMIC et 1,6 SMIC. Le truc, c'est que c'est ultra complexe. Mm-hmm. Parce que pendant des années, on a empilé des allègements de cotisations, on a fabriqué des effets de seuil, et on a effectivement emprisonné toute une partie de la population active dans cette zone 1 SMIC, 1,6 SMIC. Un chiffre très parlant, qui est régulièrement répété par Gilles Berset, si vous êtes employeur, que vous donnez 100 euros de plus à un salarié payé 1 SMIC, donc il sort du 1 SMIC, ça coûte 483 euros à l'employeur. Comment fait-on ? En fait, personne n'a la martingale miracle. Il y a 2 économistes à qui on a commandé une note, un rapport sur ce sujet. C'est très très attendu ce qu'ils vont dire pour voir comment on fait pour désmicardiser. Parce qu'on a mis en place un système tellement complexe qu'on ne s'en sort plus. Le rapport est attendu pour mi-juin.
Voilà, on le décryptera quand il arrivera ce rapport, évidemment. Brièvement, le Premier ministre est revenu sur le concept de réduction du temps de travail. Qu'avez-vous retenu sur cet aspect ?
C'est bien l'histoire de la semaine en 4 jours et pas de la semaine de 4 jours. C'est donc pas de la RTT. On fait la même quantité de travail, mais pas en 5 jours, en 4 jours. Et il confirme qu'il y a une expérimentation qui va être engagée dans plusieurs fonctions publiques.
Bon, une fois de plus, notre Premier ministre répète qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts.
Ah oui, alors avec quelques bémols, il n'est pas hostile à l'idée qu'on aille taxer ce qu'on appelle les profits exceptionnels quand il y en a. Bon, c'est ce qu'on fait déjà pour le secteur de l'électricité, les producteurs d'électricité, et ce qu'on fait depuis cette année pour les autoroutes. Taxer les riches, il dit, écoutez, si vous avez des bonnes idées, allez-y, mais enfin, on voit bien que c'est vraiment pas sa tasse de thé. Et en plus, la réalité, c'est que penser que c'est avec des impôts qu'on va régler notre problème, c'est juste un mythe. Imaginez, Lorraine, on remet l'ISF là, en plus de l'IFI. Allez, je vous le fais à 3 milliards, 4 milliards de recettes en plus. Le problème, c'est 154 milliards de déficit. Donc, faut pas rêver. Il y a trois raisons qui s'opposent à des hausses d'impôts. La première, c'est que ça nous accrocherait définitivement à la première marche du podium mondial, mais définitivement. Oui. Ça ruinerait, deuxième raison, un peu plus la parole présidentielle, qui était justement de ne pas monter les impôts. Et le problème, c'est que ça ne règle absolument rien. Donc, Gabriel Attal, en substance, il nous dit, on a un problème de finances publiques, on a un problème de comptes publics. Les deux solutions pour s'en sortir, c'est monter les impôts ou travailler davantage. Et son mantra, c'est quand même le travail. C'est marrant, il cite pas la baisse de la dépense publique.
Pas encore. C'est peut-être une idée qui deviendra lumineuse d'ici quelques semaines. Merci Nicolas pour cette chronique. À retrouver en podcast et en replay comme l'ensemble de nos programmes sur BFM Business. Et puis sur YouTube aussi, vous savez, vous pouvez participer à la discussion, commenter, réagir aux chroniques de Nicolas. Et vous aussi, donner votre avis ou vos bonnes idées à nos dirigeants. Vous restez avec nous, on va vous donner des bonnes idées pour votre portefeuille avec l'équipe de Gay Lussac Gestion.
Tout pour investir en portefeuille.
Des bonnes idées, ou du moins, on va vous faire un petit peu voyager. Bonjour Louis De Fels.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes avec nous, porte-parole de l'équipe Gay Lussac Gestion qui a voyagé ces derniers jours. Votre équipe est partie en Italie. Vous revenez avec des valeurs à mettre en portefeuille. Racontez-nous.
Exactement. Il y a eu deux de nos, donc des huit personnes chez Gay Lussac, à savoir donc Guillaume Yours et Thibaut Messin. On l'a eu la Dolce Vita pendant une semaine. Ils ont vraiment sillonné l'Italie, le nord de l'Italie pendant une semaine. Ils ont profité pendant que c'était la Star Conference, vous savez que c'est le rendez-vous un peu biannuel pour les pépites du terroir italienne. Donc ils ont profité de ce moment-là pour faire jusqu'à 8 visites de sites.
La Star Conference, c'est un peu comme si on avait une semaine des ETI en France, en fait, ou des grosses PME en région en France.
Exactement, c'est le rendez-vous des plus belles valeurs, souvent familiales, italiennes. Donc, notamment dans le nord de l'Italie, c'est vrai que dans les régions du Piémont, la Lombardie, la Ligurie, la Toscane, donc c'est vrai que Thibaut et Guillaume ont visité et ont fait tout le tour de nord de l'Italie et ils se sont arrêtés sur une première pépite du terroir que l'on aime beaucoup, c'est San Lorenzo.
Qu'est-ce que donc, c'est San Lorenzo, rappelez, dites-nous.
Donc San Lorenzo, c'est vraiment le leader, la plupart des gens doivent connaître quand ils font la visite de site sur le port de Saint-Tropez ou à Cannes, c'est vraiment le leader des yachts italiens. Vraiment, c'est une superbe valeur de luxe. Donc, ils sont allés dans la petite ville à côté de Spezia qui s'appelle sur le site de Ameglia. Mmh. Et il faut savoir donc que cette société, vous savez, de yacht a des carnets de commandes très longs, parce que c'est très long pour pouvoir faire des bateaux. Et ils ont été impressionnés par l'industrialisation et des process de la fabrication des bateaux. Parce que vous savez, un bateau, ils en font pas énorme par an, c'est des grands bateaux de luxe, ils pourront faire 30 mètres, 40, 50 mètres et plus. Et ils ont un savoir-faire d'une grande maîtrise donc, de cette exécution. Ils arrivent à faire à la fois du sur-mesure tout en faisant l'industrialisation, donc ce qui est un vrai savoir-faire. Ils ont une telle confiance sur leur carnet de commandes qu'ils arrivent même à produire en avance, même quand ils n'ont pas encore le bateau, pour réduire les délais. Et c'est un peu comme une autre valeur italienne très connue dans le luxe qui est Ferrari. Ils ont réussi à créer ce qu'on appelle un peu le club San Lorenzo, comme le club Ferrari, en essayant de faire que les gens qui ont déjà eu un bateau peuvent également en priorité en racheter. Je crois qu'il y a plus de 60% des nouvelles commandes de bateaux qui viennent de personnes qui en avaient déjà acheté un. Et c'est comme ça qu'on crée la valeur et la notoriété de la marque.
Le club San Lorenzo, voilà, vous avez déjà un yacht de la marque, et la probabilité que vous en rachetez un autre après pour remplacer l'ancien est près de deux tiers. Alors votre équipe est également partie dans un endroit un petit peu plus industriel, au milieu des usines, dans la zone de Turin, à la rencontre d'une entreprise Paterne qui, pardon de le dire comme ça, morfle un petit peu avec ce que connaît Kering comme ralentissement actuellement. Racontez-nous cette entreprise.
Voilà, alors Paterne, c'est une société qui fait, vous savez, le patronage, donc tous les outils donc d'externalisation du luxe, hein, parce que donc, les grandes maisons de luxe maintenant externalisent à des sociétés donc les patronages, les prototypages, et c'est vrai en Italie. Donc la société bénéficie à fond du reshoring, vous savez, donc c'est les sociétés qui faisaient ça souvent, on va dire en Asie ou loin, et le refont ce savoir-faire maintenant en Italie, parce que tout cela se fait vraiment en Italie. Ce qui est intéressant de suivre des valeurs comme Paterne, c'est qu'ils vous donnent beaucoup de petites croquettes, des petites informations sur le luxe. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de Kering. C'est vrai qu'heureusement, Paterne travaille très très peu avec Kering. Et Kering, dès le début d'année, donc avant les résultats qui étaient mauvais, avait déjà mis en chômage technique plus entre 3 et 4 000 personnes. Donc souvent, suivant ces petites valeurs, ça vous donne un peu des indicateurs avancés sur d'autres valeurs. Autre chose qui est assez intéressant que nous ont dit la société Pattern, c'est que tout le monde qui fait du reshoring, il y a juste Burberry qui fait l'inverse. Burberry, lui, au contraire, il continue à sortir de l'Italie pour aller plus en Pologne et en Chine. Bon, on peut voir ce que ça donne. Donc, c'est vrai que c'est là où on voit la différence de qualité des acteurs qui, eux, veulent rester très local et vraiment utiliser le savoir-faire industriel italien. Parce que je vous rappelle que Pattern fait des produits de tapage pour le cuir, donc tout ce qui est aussi la maille et le prêt-à-porter. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Pattern, c'est une petite société familiale que l'on aime beaucoup, qui devrait continuer de faire une acquisition pour vraiment avoir le savoir-faire global. Pour cela, ils devraient sûrement faire appel au marché, donc à une augmentation de capital, ce qui leur permettrait d'augmenter le flottant et ainsi rentrer sur la Star Conference dont on parlait tout à l'heure, qui est le fameux segment phare des small et mid-cap italiennes.
Voilà, Pattern, P-A-2-T-E-R-N, pour ceux qui nous écoutent à la radio et en podcast. Un petit peu l'indicateur avancé du luxe italien et donc aussi européen, si je peux résumer ce que vous nous dites, Louis. Une dernière entreprise sous le radar de votre entreprise, pardon pour mon accent italien, Piovan, P-I-O-V-A-N. Piovan, entreprise italienne. On change de secteur. Là, on est dans la production de plastique et puis aussi en rapport quelque part avec l'alimentation.
Voilà, en fait, c'est des systèmes d'automatisation pour la production de polymères de plastique ou d'alimentation. Par exemple, si vous avez un industriel qui fait des gaufres, ils vont utiliser les grandes machines de Piovan pour pouvoir optimiser leur process industriel. Donc, c'est vraiment une société leader mondiale avec des présences un peu partout. Et la beauté de la valeur, c'est qu'ils ont fait une très grosse acquisition l'année dernière aux États-Unis qui s'appelle IPEG, qui avait une marge un peu inférieure à celle du groupe, hein, qui avait plutôt une marge autour de 11% quand Piovan, elle, est plutôt autour de 15%. Là, on a eu des très bons résultats dernièrement qui montraient que finalement les synergies étaient beaucoup plus rapides que prévu. La marge, le IPEG, va venir très rapidement rejoindre la marge du groupe. Donc, c'est une société, ce qu'on appelle un peu self-help, c'est-à-dire que la marge du groupe, dans les prochaines années, va remonter. Pas uniquement sur la remontée du volume. Vous savez que souvent, quand il y a un effet volume, les marges suivent. Mais là, donc, c'est ce qu'on appelle normalement les prochaines années. La marge va monter que par cette acquisition, par les synergies. C'est une société qui se paye à peine 12 fois le PE, sachant que vous avez une très forte croissance pour les prochaines années et surtout des retours sur capitaux employés à plus de 20%. Donc, vous avez vraiment le meilleur des deux mondes. C'est vraiment une petite pépite que peu de gens connaissent. Le titre vient de bien réagir parce qu'il y a la société allemande Berenberg qui vient de les initier avec un target price de plus de 15,50 € qui est à peu près en ligne avec ce qu'on attendait.
Voilà quelques idées d'entreprises du territoire italien à surveiller. Je vous appelle, on a parlé de Piovan, P-I-O-V-A-N. On a parlé de Pattern, P-A-T-E-R-N. Et puis en tout début de séquence avec vous, Louis, on a parlé de San Lorenzo, S-A-N-L-O-R-E-N-Z-O, dans le secteur du yachting. Merci de nous avoir fait voyager et d'avoir parlé entrepreneuriat et entreprise avec nous, Louis De Fels, de Gay-Lussac Gestion. On vous retrouvera dans quelques semaines. Peut-être que vous nous emmènerez ailleurs en Europe, on ne sait pas. Vous restez avec nous. Alors, on a parlé de l'Italie, de son tissu industriel, de son tissu entrepreneurial qui va bien. Maintenant, je vous propose de parler de fin du monde. On va réfléchir à comment gérer un budget et comment investir en période de fin du monde. C'est un concept qu'on appelle en bon franglais le doom spending. Morgane Dion du média Plan Cash au décryptage avec nous juste après une rapide respiration publicitaire. A tout de suite.
Tout pour investir, le coach.
Le coach, c'est la coach ce matin, c'est Morgane Dion. Bonjour Morgane.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes cofondatrice de Plan Cash. Avec vous, une séquence d'éducation financière pour préparer la fin du monde. On va parler en franglais, pardon, pour les puristes qui nous écoutent. On va parler de doom spending. Expliquez-nous ce concept qui, quelque chose me dit, ne vient pas de chez nous en France.
Alors, ça ne vient pas de chez nous, mais ça a quand même des impacts sur la consommation en France. Doom spending, on pourrait le traduire en français par les dépenses qui sont stimulées par la fin du monde. Doom, en anglais, c'est la condamnation, la mort. Effectivement, ce n'est pas très positif comme terme. Le doom spending, c'est une sorte de dépense émotionnelle qui consiste à dépenser de manière compulsive dans des achats qui sont non nécessaires, comme des voyages, comme des articles de luxe. Et ce, même si on est dans une situation financière précaire ou qu'on a déjà des dettes. Et c'est une habitude qui est générée par le monde en crise. Il y a les guerres, il y a l'inflation, il y a eu le Covid, etc. Et donc, c'est un peu l'idée de se dire, bon, bah, il n'y a pas de futur, alors autant flamber tout de suite.
C'est le no futur des années 2020, en fait.
C'est un petit peu ça.
C'est très contre-intuitif parce que je pensais que vous alliez nous parler de, justement, on prépare la fin du monde, alors on investit dans des boîtes de conserve, dans un bunker. On dit ça avec un sourire, mais voilà, une consommation qui est de préparer des temps très difficiles, très austères. Au contraire, vous nous dites que c'est une réaction de surconsommation et de consommation au-dessus de son budget.
Exactement.
Donc ça veut dire quoi ? On s'endette ?
Alors oui, potentiellement, on s'endette. On ne tient pas de budget, donc on dépense dès le début du mois, on se fait plaisir. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un phénomène qui touche beaucoup plus particulièrement les jeunes générations, les Gen Z et les Millennials, si je peux reprendre cette catégorisation. En fait, c'est une génération qui se dit que il n'y aura pas de retraite, qu'il n'y aura pas d'accès à la propriété et donc finalement que l'avenir d'adultes qu'on leur a promis n'aura pas lieu. Et donc ils essayent, ce sont des personnes, ce sont des jeunes qui vont essayer eh bien, de maintenir l'illusion et de quand même vivre ces expériences qu'on leur avait promises. Et moi j'aime bien dire que, enfin j'aime bien dire, je dis que c'est un peu le foutu pour foutu financier, donc on dépense. Et pourquoi aussi ? Parce que quand on ne peut, on a le sentiment de rien pouvoir contrôler, comme un sentiment de fin du monde, eh bien on va du coup se rabattre sur des petites choses de la vie quotidienne justement qu'on contrôle, et on va aller chercher la dopamine. Et la dopamine est évidemment produite notamment lors des achats, même si c'est une gratification instantanée et qui du coup met en péril encore plus notre futur.
Mais c'est très personnel, les choses qu'on a envie de faire avant la fin du monde. Il y en a qui, bon, visiblement, vous entendre, ont plutôt envie d'avoir un sac LVMH ou Hermès, d'autres qui vont aller flamber dans un voyage. Est-ce qu'il y a des tendances quand même de consommation qui se dessinent ?
Oui, particulièrement, effectivement, c'est ce que je citais, c'est les voyages. Si on regarde un peu les réseaux sociaux, on voit par exemple sur TikTok toutes ces vidéos de la Gen Z qui, et en plus sans aucune retenue, qui annonce fièrement avoir claqué tout son salaire le 10 du mois pour partir en voyage. Et c'est le salaire qui, idéalement, enfin l'argent qui était idéalement prévu pour éventuellement acheter une maison ou pour investir potentiellement, quand on est millennial, pour ses enfants. Mais oui, voilà, il y a quand même des grandes tendances, c'est le luxe, c'est les brunchs du dimanche, enfin c'est vraiment, voilà, pardonnez-moi l'expression, mais on kiffe la vie parce que de toute façon, il n'y aura pas de demain.
On vit en fait, on mange, on voyage, on achète des choses, on est dans la consommation, dans l'instant présent. Vous disiez tout à l'heure que si on identifie que c'est un phénomène qui touche particulièrement les plus jeunes, on va dire tous les gens qui ont en dessous de 25-30 ans, est-ce qu'on retrouve de manière peut-être épiphénoménale ces comportements dans d'autres parties de la pyramide des âges ?
Alors, pas nécessairement. D'ailleurs, on voit pas mal de commentaires qui fleurissent de parents qui disent « Ah, bah moi, à ton âge, je faisais pareil, mais j'ai un petit peu, la vie m'a un petit peu appris qu'il y a aussi un retour de bâton et que quand t'arrives 30, 40, 50 ans, il y a des étapes de vie qu'on a envie de franchir et si on a tout dépensé. » Donc voilà, ces générations qui ont un petit peu plus appris, parfois à la dure, que la dette n'est pas forcément une bonne chose. Et surtout, c'est des générations, par exemple la génération des quarantenaires, cinquantenaires, qui sont beaucoup moins impactées par l'essor des smartphones ou par l'impact des réseaux sociaux, les nouveaux moyens de paiement. Aujourd'hui, les Gen Z, par exemple, sont beaucoup plus susceptibles d'utiliser le moyen de paiement échelonné ou les paiements à report que les autres générations, ce qui forcément facilite cette dépense instantanée.
Oui, c'est-à-dire qu'on consomme à crédit. Bon, vous avez souligné le fait que ces jeunes gens ne se visualisent pas dans leur avenir d'adulte. Vous avez souligné l'importance du projet immobilier dans la construction de cet âge adulte, en tout cas dans notre, comment dire, dans notre philosophie française. Est-ce que c'est une manière très française de doom spender, de dépenser de cette manière-là, en utilisant l'argent qu'on aurait mis dans un crédit immobilier ? Est-ce que le budget immobilier, dans cette conception française de l'argent qu'on gère, est particulièrement française. Voilà. Est-ce que l'immobilier, c'est vraiment le projet duquel on va retirer tout le budget pour aller le dépenser ailleurs?
En fait, j'ai même envie de dire que cette génération ne prévoit pas de budget immobilier parce que c'est une idée qui s'est complètement éloignée de ces jeunes. Moins de la moitié des Gen Z pensent qu'ils pourront accéder à la propriété un jour. Donc en fait, ça fait même pas partie des plans, si vous voulez. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de plan d'avenir.
Bon, cette émission est une émission d'éducation financière. C'est aussi un concept qui vous anime, l'éducation financière, Morgane. Alors qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour ceux et celles qui nous écoutent? Qu'ils soient dans cette génération de doom spender, ou peut-être si vous êtes parents, oncles, tantes, cousins, fiancés, comment on peut agir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ce biais de dépenses?
Alors, déjà, laissez-moi dire que la première chose, ça serait que systémiquement, on n'est plus de fin du monde qui nous pend au nez. Bon, on n'y est pas encore. À titre individuel, si on a des enfants ou des proches qui sont plutôt des jeunes, des Gen Z, qui sont touchés par cette habitude, je dirais que la première chose, c'est d'essayer de les accompagner dans l'éducation financière. Leur apprendre l'intérêt d'un budget, et qu'un budget, c'est pas forcément chiant à mourir, et qu'un budget, ça veut pas dire renoncer au plaisir. C'est le premier point. Et évidemment, j'encourage à les tourner vers des plateformes d'éducation comme peut l'être Plan Cash et son application mobile. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que je pense aussi qu'il faut reconnaître qu'il y a une responsabilité intergénérationnelle sur ce consumérisme endémique qui nous touche et qu'on se questionne un petit peu tous et toutes sur nos dépenses, les peurs et les émotions qui sont derrière. Et finalement, je pense qu'il faut aussi redonner aux jeunes l'envie de bien vivre demain et que cette envie soit plus forte que la peur qu'il y a aujourd'hui. Investir, ça peut sembler un pari fou quand on est jeune. On se demande si l'économie tiendra le coup dans 30, 40, 50 ans face à la crise climatique, face à la décroissance. Et donc, il faut peut-être apporter la réponse de l'investissement responsable, des entreprises essentielles, qui peut ramener un sentiment d'utilité générale, de se dire qu'on participe l'impact environnemental, à l'impact social, et que ça vienne compenser ce besoin de gratification instantanée en le remplaçant par une gratification sur le long terme. Et puis c'est aussi trouver une communauté. Quand on investit responsable d'autant plus, on fait partie d'une communauté et donc ça répond à ce besoin d'appartenance qui est très forte chez les jeunes, il ne faut pas l'oublier.
Bon, la disparition du projet immobilier en soi, d'un point de vue rentabilité, il n'est pas non plus très effrayant. Il vaut mieux peut-être mettre son argent sur les entreprises du CAC 40 que sur l'immobilier en ce moment. Est-ce que vous diriez qu'un peu plus d'éducation financière aussi, ça permettrait d'éviter ces comportements qui restent avant tout compulsifs?
Ah ben ça... Évidemment, c'est absolument nécessaire. C'est vraiment essentiel pour comprendre comment fonctionne le monde et prendre part aussi dans l'économie. Si on veut construire le monde de demain, il faut prendre part à l'économie et ça passe forcément par s'éduquer sur son budget, sur ses dépenses et investir dans l'économie et dans le monde de demain.
On comprend en sous-jacent dans ce que vous dites la place, l'importance des réseaux sociaux. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui consomment sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui participent à évangéliser l'éducation financière, les sujets de budgeting, de budgeting, de gestion de l'argent. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que ce n'est plus honteux de dire justement je fais attention à mon argent et que du coup, quelque part, il y a deux tendances. Il y a ceux qui flambent tout et puis ceux qui, au contraire, vont prôner comme un mode de vie et un mode de rationalité d'avoir un budget qui se tient.
Oui, effectivement, aujourd'hui, de dire publiquement je ne dépense pas mon argent à outrance et je fais attention, c'est quelque chose qui, et c'est une bonne chose, a de plus en plus, prend de plus en plus d'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux. Le doom spending, pour donner chiffre, c'est 33% des hommes de la Gen Z et 21% des femmes de la Gen Z. Donc, heureusement, ce n'est pas l'ensemble de la génération. Après, moi, je pense que ça passe aussi par des habitudes saines sur les réseaux sociaux, savoir, en fait, couper les profils, que ce soit les marques qui servent de ces sentiments de fin du monde et de besoin d'appartenance, ou que ce soit des profils d'influenceurs et d'influenceuses consuméristes, et puis évidemment aller suivre plutôt des profils qui sont sur des habitudes plus saines, sur de l'éducation financière et qui vont petit à petit nous aider à changer nos habitudes.
Voilà, le nouveau marketing finalement. qui aiguille nos consommations vers certains modes. Merci beaucoup Morgane Dion pour cette tribune sur le doom spending, cofondatrice de Plan Cash Haute Média, où vous pouvez participer à la construction de votre éducation financière. Cette chronique est à retrouver en podcast et en replay sur BFM Business d'ici quelques minutes. Vous restez avec nous, on marque une petite pub, une petite pause, et puis après on s'occupe d'immobilier pour ceux et celles qui n'ont pas décidé de tout cramer et de continuer à chercher à investir. On va parler de la colocation. Vous savez, la coloc avant c'était justement pour les jeunes de moins de 25 ans. Bien, ça a changé. Il y a de la pétence côté locataire, mais aussi côté propriétaire. On en parle juste après la pub. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.